Si l'on veut savoir comment les kabbalistes envisageaient le féminin, non pas seulement d'une manière abstraite dans leurs écrits, mais de façon très concrète dans leurs pratiques rituelles, y compris même dans les pratiques routinières, je crois qu'un des bons exemples, c'est celui de la prière. En effet, les kabbalistes orientent leurs prières différemment. En tout cas, ils y investissent une intention différente selon le type de prière ou de bénédiction qu'ils adressent. C'est-à-dire que dans le système de prière des kabbalistes, une prière adressée par exemple pour demander à Dieu de la force sera adressée à la Séphira Gevura. Une prière pour lui demander sa grâce, sa bonté, sera adressée à la Séphira Chesed, et ainsi de suite. Non pas que ces prières s'arrêtent à la Séphira Gevura ou la Séphira Chesed, mais ces séphirotes sont les médiatrices des prières qui s'élèvent jusqu'à Ein Sof, c'est-à-dire jusqu'à l'infini. Mais la puissance d'élévation des prières jusqu'à l'infini se réalise grâce à l'aide, finalement, de la médiation des séphirotes, puisque l'infini ne peut pas être abordé directement. Donc, en ce qui concerne les prières qui sont adressées aux séphirotes féminines, et en particulier à la séphira Malchut, la dixième séphira, sur laquelle, disons, la plus grande charge du caractère féminin porte, est-ce que les kabbalistes, en s'adressant à cette séphira, avaient vraiment conscience de s'adresser à une entité féminine? C'est-à-dire, est-ce qu'ils se représentaient cette figure d'apparition de la forme divine, ou quel que soit le nom qu'il pouvait lui donner? Les séphirotes portent toutes sortes de noms, et la séphira Malchut, d'ailleurs, est une des séphirotes qui porte le plus de noms. Il y en a un très grand nombre. Il suffit de regarder le Charéora de Rabbi Joseph Gicatilia pour se rendre compte que c'est elle qui bénéficie de la nomenclature la plus riche. En tout cas, parmi cette nomenclature, les traits féminins sont nettement marqués. Elle est appelée Bathsheba, par exemple. Donc, c'est une femme. C'est Bethzabée, dernière épouse du roi David. Elle porte encore d'autres appellations de caractère féminin. En tout cas, elle est de toute manière nettement différenciée ou distinguée comme étant féminine. Alors, qu'est-ce qui peut nous renseigner à ce propos? D'abord, le fait que dans certaines des prières additionnelles que les kabbalistes ont ajoutées aux formules de prière classiques, comme par exemple celle qu'on trouve dans le Sefer Tikkuné HaZohar, et qui a été reprise tout au long de l'histoire juive jusqu'à nos jours. D'ailleurs, on en trouve des traces dans les sidourim actuels, dans les rituels de prière actuels, et qui est Lechem Yichud, Kodesh Abrihu, Shrinte. C'est une formule qu'on peut traduire en français par au nom de l'unification du Saint béni soit-il et de sa Shekhina. Et beaucoup d'actes rituels, y compris des bénédictions et des prières, sont précédés par cette formule. C'est une formule qui fait allusion à la volonté que les kabbalistes se manifestent de réunir la dimension masculine et féminine, de les unir à travers tout l'ensemble de leurs actions, prières, bénédictions et ainsi de suite. Donc c'est une union de type conjugal qui est visée par cette formule particulière. Et c'est une formule qui, de façon évidente pour un kabbaliste, se réfère, Lechem Yichud, Kodesh Abrihu, Shrinte, à une entité féminine, la Shekhina, et à une entité masculine, le Saint béni soit-il. Notre exemple, c'est le fait que dans des sidourim marqués par l'influence de la Kabbalah, qu'on retrouve surtout dans les sidourim du monde séfarade, les dieux ou les pronoms qui se réfèrent à Dieu sont au féminin et non au masculin. C'est des choses qu'on ne trouve guère dans les sidourim du monde ashkénaze, mais dans le monde séfarade, c'est vraiment quelque chose de très courant et qui ne semble poser aucun problème, ni d'ailleurs même aucune question. Donc on s'adresse à Dieu en employant une grammaire, enfin en déclinant les pronoms, par exemple, ou les suffixes, parce qu'en hébreu les pronoms sont souvent des suffixes, au féminin. Bon, il y a d'autres exemples peut-être plus probants encore. Évidemment, celui qui vient à l'esprit, c'est celui de vision de la Shekhina, sous une forme féminine, lors de prières ou lors de cantiques, lors de récitations d'hymnes, et en particulier d'hymnes de lamentation. On trouve des récits de kabbalistes qui racontent que lorsqu'ils se trouvaient en prière et qu'ils se lamentaient sur la ruine du temple, ils ont aperçu la forme d'une femme habillée de noir qui pleurait, qui sanglotait. C'est une vision de la Shekhina. Et donc, il n'est pas douteux que là, la Shekhina, ou la Sefira Malchut, à laquelle elle est identifiée, est véritablement un être considéré, en tout cas, non seulement considéré, mais qui se manifeste au kabbaliste, qu'il appréhende, qu'il se représente, à laquelle il s'adresse, comme entité féminine. Maintenant, il y a encore d'autres exemples. Par exemple, quand le Zohar parle du juste, du tzaddik, qui s'unit à deux entités féminines, en même temps, ici-bas à son épouse et d'en haut à la Shekhina. Et le Zohar décrit par exemple la personne qui part en voyage et qui doit rester unie à deux entités féminines. Il doit avoir deux ivougues simultanées avec le féminin d'en haut, la mère d'en haut et la mère d'en bas. Le féminin d'en haut et le féminin d'en bas. Et alors, quand il est en voyage, il n'est plus uni à sa femme. Et donc, il va s'unir simultanément à deux entités d'en haut qui vont en même temps entrer en relation avec lui, la Shekhina, c'est-à-dire la mère d'en bas, et la Sefira Bina, là, qu'on appelle aussi la mère d'en haut. Donc là, la Shekhina, qui est l'équivalent de la mère d'en bas, qui est l'équivalent de l'épouse, quand il part en voyage, dans un rapport, dans une relation homme-femme, par rapport à cette description du Zohar. Et il n'est pas douteux que ce texte est très évocateur d'une relation quasiment de substitution. Quand l'épouse concrète, en chair et en os, est absente pour une raison ou une autre, alors c'est la Shekhina, une entité féminine plus spirituelle, impalpable, qui prend le relais. On en a un autre exemple, encore plus patent, dans un texte plus tardif de Rabbi Moïse Cordovero, qui est aussi un interprète de la Kabbale espagnole, qui a repris et se fait la synthèse de la Kabbale espagnole dans ses écrits. Et dans un de ses ouvrages, où il décrit le type de concentration que l'homme doit produire quand il s'unit à sa femme. Alors c'est très très détaillé, et il y a toute une série d'étapes dans lesquelles on ne va pas rentrer maintenant, mais ce qui nous intéresse, c'est de voir que, à la fin de son exposé, il dit, et si la femme n'est pas là, pour une raison ou une autre, où il n'est pas marié, où la femme n'est pas là. Comment le kabbaliste va produire ses concentrations, ses méditations, alors que ces méditations, elles sont simultanées, elles sont parallèles à l'accomplissement de l'acte concret, matériel d'union, d'union conjugale. Comment c'est possible alors qu'il n'y a pas de... que le kabbaliste est seul la nuit? Alors il dit, eh bien, il fera cette union, il réalisera cette union par la parole, en se représentant cette union comme une union qu'il accomplit avec la Shekhina. Donc il y a encore une fois une relation, une union avec la Shekhina qui est représentée vraiment comme une union physique, concrète. D'autres exemples. Et même on peut remonter au Talmud d'une certaine façon. Alors évidemment, dans le Talmud, il n'est pas question de la Shekhina qui a cette place de l'épouse ou de la femme, mais c'est la Torah. De façon très explicite et à plusieurs reprises, on trouve dans le Talmud des passages qui décrivent la relation du juif et de celui qui étudie, de sa relation à la Torah, comme une relation à une femme, avec tout ce que cela implique. Pour le kabbaliste, cette relation à la Torah devient la relation à la Shekhina. La question maintenant est de savoir si déjà pour le talmudiste, enfin pour l'homme de l'époque du Talmud, cette Torah qui a la forme d'une femme, qui est aimée, qui est fréquentée, à laquelle on s'adonne, on s'unit, etc., comme à une épouse. Et d'ailleurs, il y a lors de la fête, par exemple, de Simchat Torah, des cérémonies où il y a un mariage, un Chatan Torah, un mariage avec la Torah. Bref, c'est mis en scène, c'est représenté de multiples façons, ritualisé, etc., lors des fêtes, lors de différentes occasions. Ce qui nous permet de poser la question, sur laquelle on a que des réponses hypothétiques, bien sûr, parce qu'on ne peut pas interroger, faire une enquête sur place, sur des gens qui n'existent plus, je veux dire, qui ont vécu il y a presque 2000 ans. Donc, cette Torah auquel les talmudistes s'unissent, qu'ils étudient, et à laquelle ils s'unissent comme à une femme, est-ce qu'elle était seulement un livre ou un matériau de connaissance neutre, ou est-ce que déjà à cette époque-là, elle était vécue, elle était ressentie, perçue comme une présence divine. Il y a plusieurs indices qui nous permettent de répondre oui à cette question. Que pas seulement dans le discours, mais au moins dans le discours des talmudistes, la Torah était beaucoup plus déjà qu'un livre saint, mais une sorte de, je ne veux pas dire d'incarnation, parce que là il ne s'agit pas de chair au sens propre, mais de matérialisation en tout cas, d'une force, d'une puissance, d'une présence divine. On peut en dire autant du Shabbat, qui était perçu aussi, et on en a des exemples dans le Talmud, comme d'une entité vivante, d'une entité féminine, puisque le Talmud disait par rapport au Shabbat, quand le Shabbat allait rentrer, qu'ils allaient accueillir la fiancée, qu'ils allaient accueillir l'épouse. Et bien sûr, les kabbalistes ont ajouté beaucoup de choses à cela. Et il y a même un hymne, les Chododi, qui a été écrit en référence avec cette très ancienne tradition. Et on trouve encore d'autres dans la littérature des palais, par exemple, Shabbat est un ange, est une entité, une figure personnelle, pas seulement un moment dans la semaine, mais une figure personnelle, personnalisée, angélique, angélomorphique, et qui a des traits féminins, qui est un ange féminin, qui est appelée la princesse, qui est une clairement et distinctement une entité féminine archangélique. Qui est déjà représentée comme une reine. Shabbat Malketa, la reine Shabbat, qui a un statut d'ange supérieur. Donc, la Torah et le Shabbat sont les deux grands exemples, peut-être les plus importants et peut-être les seuls, si je ne me trompe, d'entités de la religion, d'éléments du rite, des pratiques ou de l'étude, d'objets, enfin, si on peut appeler objets, ces centres de préoccupations religieuses, de réalités religieuses sacrées, considérées comme saints, aussi bien la Torah, la Sainte Torah, que le Shabbat, qui est aussi un jour saint, qui est le jour de saint par excellence, sont des entités féminines. Et pas seulement théoriquement féminine, mais vraiment auxquelles on s'adresse, par rapport auxquelles les hommes ont un rapport comme à une femme. Et donc, les kabbalistes ont déplacé sur le plan de la Shekhina ce qui était déjà courant, en tout cas qui avait déjà eu sa place, sur le plan de la Torah et du Shabbat. Et c'est pourquoi il est permis, je pense, sans trop d'hésitation, de dire qu'effectivement, ce n'était pas une entité neutre, abstraite, qui est féminine par sa fonction théorique ou par sa représentation livresque ou poétique, mais vraiment qui est féminine dans le rapport qu'ils avaient à elle, à cette entité-là, cette séphira. La Malchoute, la dernière Séphira en particulier, que les kabbalistes développaient. C'est ce rapport-là qu'ils investissaient. Et donc, oui, sans hésitation, je dirais que c'est vraiment une entité féminine, quand ils s'adressaient à la Malchoute, que les kabbalistes avaient conscience de s'adresser. Maintenant, quant à savoir comment, non pas une Séphira, mais le Ein Sof, c'est-à-dire la source de toutes les séphirotes, la source cachée et mystérieuse, comment le Ein Sof était perçu en termes sexués, masculin, féminin, neutre, c'est une question difficile. A priori, la première réponse qui vient, un examen, disons, rapide, et même déjà un peu poussé des textes, nous peuvent laisser penser que le Ein Sof est une entité neutre, qui n'a pas de caractère sexué, particulier. C'est peut-être la seule entité vraiment neutre de toute la Kabbale et de tout l'univers des kabbalistes, c'est-à-dire le judaïsme. Il n'y a pas la possibilité de penser le Ein Sof, de le représenter. Il est appelé la cause des causes. Le Zohar multiplie les expressions qui désignent son caractère mystérieux, inaccessible, indéfinissable, indéterminé, inconditionné. Bref, il est tellement hors d'atteinte de l'imagination, de la conceptualisation, que, a priori, la réponse par rapport au caractère sexué, c'est qu'il est neutre. Mais lorsqu'on examine d'un peu plus près certains textes du Zohar, en particulier les passages qui ont trait à l'origine primordiale des Séphirot, des passages que l'on retrouve par exemple dans Zohar 15a ou dans le Zohar sur le Cantique des Cantiques à plusieurs reprises. Il s'agit de passages qui mettent en scène ce qui est appelé dans le Zohar la Botsina de Kardinuta, un terme qu'il est délicat de traduire. Botsina de Kardinuta peut être traduit par la flamme obscure, peut être traduit aussi par la flamme dure, la flamme rigide. Bref, cette entité qui n'est pas une séphira proprement dit, mais qui agit à l'origine de toutes les séphirotes, comme la, ce qui va mettre en branle tout le processus d'apparition des séphirotes, eh bien, cette entité surgit du Ein Sof, de l'infini. C'est dit explicitement dans le Zohar 15a et c'est répété dans le Zohar sur le Cantique des Cantiques. Miraza de Ein Sof, Nafik, Botsina de Kardinuta. Du secret ou du mystère de l'infini surgit la flamme obscure ou la flamme rigide. Et dans ces passages, on a le sentiment qui est confirmé par d'autres lectures parallèles, bon, qu'il est un peu compliqué de, ou un peu difficile maintenant de rassembler ou de résumer rapidement, mais c'est des choses qui ont aussi leur qui deviennent très visibles dans une école de Kabbale comme celle de Rabbi Israël Sarug, une forme de Kabbale organique particulière. Et là, clairement, on voit que le Ein Sof a une position ou un rôle masculin. Et la flamme obscure qui perce l'air qui l'environne, et l'air qui l'environne, avir ou tihara, c'est-à-dire la lumière, l'aura lumineuse, la gloire, comme le dit Nachmanim dans son commentaire sur le Sefer Yetzirah, qui entoure, qui enveloppe la première Sefira, la Sefira Keter, le néant, qui est appelé aussi néant. Donc cette flamme obscure qui surgit de l'infini, qui perce la Sefira Keter pour y graver des signes, c'est-à-dire pour y inscrire les germes des séphirotes qui vont se développer ensuite sous la forme du système des séphirotes, eh bien, cette flamme obscure représente à la fonction du Yesod, de la séphira Yesod, c'est-à-dire comme un sexe masculin, par rapport au Ein Sof. Donc le Ein Sof, là, il est masculin. Et la première séphira, qui dans ce texte, c'est-à-dire le texte du Zohar, ne vient pas du Ein Sof, ne surgit pas du Ein Sof, mais semble, le Zohar ne le précise pas, mais c'est ce que le texte suggère en tout cas, être coextensive au Ein Sof, entourer le Ein Sof, envelopper le Ein Sof de toute éternité, comme si le Ein Sof et le néant, le Ein Sof et le Aïn, le Ein Sof et la première séphira étaient unis comme masculin et féminin, de façon sempiternelle, de façon sans éternelle, puisque l'une, la deuxième séphira, la première séphira ne vient pas du Ein Sof à proprement dit, mais existe toujours, depuis toujours avec le Ein Sof, en même temps que le Ein Sof, se confond avec le Ein Sof. D'ailleurs, chez un kabbaliste comme Joseph Jikatilia, de façon tout à fait explicite, la première séphira et le Ein Sof sont identiques, puisque le Ein Sof est appelé, il dit, la première séphira est appelée Ein Sof, dans son Shaar Eora, dixième chapitre. De même, Rabbi Moïse de Lyon, dans son Sefer Shekel HaKodesh et dans d'autres ouvrages, tantôt semble identifier purement et simplement la première séphira avec le Ein Sof, Keter, la couronne avec le Ein Sof, l'infini, tantôt semble les distinguer. Et dans le Zohar, on repère ce même balancement, que certains, naïfs, je crois, ont considéré comme une espèce de contradiction ou d'hésitation de l'auteur. Mais il ne s'agit pas du tout de ça. Il s'agit d'une question qui est en soi complexe. Il s'agit de dire, en même temps, deux choses. Que la première séphira est unie de façon profonde et depuis toujours. Elle ne s'est pas unie à un certain moment, mais elle est née. Enfin, elle n'est pas née, elle est toujours avec le Ein Sof, elle est depuis toujours avec le Ein Sof. Le Ein Sof et la première Séphira, c'est un couple qui constitue l'unité même, primordiale. L'originateur primordial est un, la source est unique. Mais même cette source est constitué d'un pôle masculin et d'un pôle féminin, qui ne sont, sont pas unis comme les séphirotes vont s'unir par la suite, mais qui fusionnent ensemble. L'un entoure, enveloppe l'autre, l'un est l'enveloppe de l'autre. Là, comme si l'un était la gloire ou la lumière qui surgissait de l'autre, sans qu'elle puisse être distinguée. La difficulté, c'est de penser ensemble, et d'où les écarts dans le discours de Moïse de Léon, en particulier dans le Zohar ou dans ses écrits hébreux, de penser ensemble la différence et l'unité et la fusion. Mais en tout cas, pour ce qui nous concerne par rapport à notre sujet, la flamme obscure, ou qui est identifiée aussi dans d'autres textes du Zohar au Kav Amida, la ligne de mesure, c'est-à-dire ce qui va donner une mesure, une limite à l'infini, c'est une intervention du Ein Sof à l'intérieur de la première séphira, à l'intérieur de cette enveloppe, l'air primordial, comme dit le Zohar ou les écrits de Moïse de Léon, Avira Kadmea, cette intervention sous la forme d'une percée, une percée qui se fait et qui ne se fait pas, le texte lui-même présente cela comme un mouvement d'aller et de retour de batesh velo batesh, il frappe et ne frappe pas, mati velo mati, il atteint ou il cogne et ne cogne pas. Il y a un contact qui est un choc et qui en même temps et un choc fécond, puisqu'il ébranle tout un système, tout un système fécond qui va produire ensuite toute une série de conséquences créatrices. Mais cela se fait à l'intérieur d'une origine mystérieuse qui est parfois figurée comme le Ari Chanpin ou le Atika Kadisha, le saint ancien. Ici, on se situe dans des zones extrêmement élevées du système de représentation. Et donc, on aurait là, effectivement, l'idée que le Ein Sof n'est pas aussi neutre qu'il en a l'air, mais qu'il est lui-même affecté par un différentiel en termes sexués. En fait, tout se passe comme si même au plus haut niveau du système de l'émanation, les kabbalistes n'ont pas voulu ou n'ont pas pu, en tout cas, leur logique était incompatible avec une logique de type philosophique logique en termes philosophiques qui laisse forcément l'origine primordiale dans sa neutralité, qui ne peut pas l'affecter d'une qualité ou d'un caractère masculin ou féminin. Parce que affecter un degré de l'être, un degré ou même antérieur à l'être, à plus forte raison, d'un caractère masculin ou féminin, c'est immédiatement l'affecter d'une certaine vie, vitalité, une certaine presque d'humanité, incompatible avec la pensée conceptuelle, philosophique, classique, la théologie même. Puisqu'un principe insondable, comme l'est effectivement, et les kabbalistes, le Zohar lui-même le dit et le répète, le Ein Sof, un principe insondable, philosophiquement parlant, ne peut pas avoir de sexe. Or, pour les kabbalistes, finalement, tout en restant parfaitement insondable, eh bien, il en a un. Il en a même deux. Et il y a même un rapport sexuel, une sorte de rapport sexuel assez inimaginable, mais tout de même qui est affirmé, qui est décrit en fait, si l'on prend le texte comme comme l'expression voilée de ce rapport, le texte du Zohar 15a par exemple, ou d'autres textes presque identiques qu'on retrouve dans le Zohar sur le Cantique des Cantiques et dans d'autres passages du Zohar, dans le Sifra d'Itsniouta aussi, il y a des allusions, qui décrit de façon voilée une sorte de, une forme particulière de rapport sexuel entre l'infini et le néant. Et toute l'histoire primordiale de la mise en forme du monde divin, c'est l'histoire d'une union sexuelle, d'une union physique, d'une union en profondeur entre le Ein Sof et le Ein, entre l'infini et le néant. Alors, quelle est la différence entre le Ein Sof et le Ein, entre l'infini et le néant? Pour des kabbalistes, comme vous avez jusqu'à Tilia, il n'y a guère de différence. La différence est impensable. Elle est tellement subtile qu'on peut l'ignorer. Pour d'autres, comme Rabbi Moïse de Léon, ou le Zohar, d'autres kabbalistes encore, bien sûr, eh bien, la différence est quand même notable et permet de distinguer deux étapes. Donc, le Ein Sof est un faux neutre, au sens où il est neutre jusqu'au point où on l'interroge de façon très serrée. Quand on soumet le Ein Sof à la question, quand on le soumet à la question la plus... le plus fortement, la plus rigoureusement possible, à savoir si ça, s'il est absolument neutre, autrement dit, s'il est impossible de l'entrevoir, de l'entreapercevoir, en l'identifiant, en le caractérisant comme masculin ou comme féminin, une réponse est oui, on peut le caractériser comme masculin à un certain niveau, selon une certaine activité, ou est comme féminin, dans la mesure où il s'identifie à la première séphira, d'une certaine façon. Alors, la difficulté, c'est comment l'unité est pensable, comment il peut y avoir une unité s'il y a d'emblée, dès l'origine, une dualité, masculin et féminin. Alors sur ce point, il y a un Midrash, toujours du Pirkei de Rabbi Eliezer, qui est un livre de référence pour les kabbalistes, qui a joué un très très grand rôle. Et si on analyse les commentaires que les kabbalistes ont faits de ce Midrash, on peut faire l'histoire de toute cette problématique de l'unité et de la dualité au niveau primordial, au niveau le plus primordial. Ce midrash du Pirkei de Rabbi Eliezer, chapitre 3, dit simplement « Avant que le monde soit créé, il y avait le Saint béni soit-il et son nom seulement. » Une variante, souvent citée par les kabbalistes, rapporte ce midrash sous la forme suivante « Avant que le monde soit créé, le Saint béni soit-il était un avec son nom. » Ces deux versions du même midrash disent substantiellement la même chose, à savoir qu'il n'y avait au tout début, avant la création du monde, que Dieu, Saint béni soit-il, et son nom. Que dire qu'il n'y avait qu'il y avait seulement eux, que l'un était un avec l'autre, que Dieu était un avec son nom, cela revient exactement au même. En tout cas, l'essentiel, c'est de retenir que, avant qu'il y ait quoi que ce soit, il y avait Dieu seulement. Mais ce Dieu seulement inclut aussi son nom, c'est-à-dire quelque chose qui s'identifie à Dieu tout en étant différent sur le plan au moins verbal. Et c'est cette différence que les kabbalistes ont creusée en la faisant pencher ou en la versant sur le compte de la différence entre le Ein Sof et la première séphira, l'infini et la séphira Keter, la couronne. Si l'on se demande qu'est-ce que les textes du Zohar en particulier, peuvent nous apprendre sur le rapport que les kabbalistes entretenaient avec les femmes, sur leur façon de les considérer, sur le rôle qu'ils leur assignaient dans la société, non plus la femme d'en haut, mais les femmes concrètes, leurs propres femmes d'abord. Si l'on se pose cette question et l'on cherche la réponse dans les textes des kabbalistes, on aura du mal à la trouver. Il est difficile de tirer directement de leurs écrits des renseignements précis sur un milieu qui ne nous a laissé pratiquement aucune trace, aucun récit, aucune biographie, ni aucune autobiographie de ses activités et de sa vie quotidienne, hormis quelques notes, quelques courtes références ou allusions dans des passages rares, finalement, dans toute cette littérature. Donc, on est a priori bien embêté pour répondre avec rigueur à cette question. Cependant, il faut quand même essayer, je crois, de tirer quelques éléments relatifs à cette question des textes qui nous sont parvenus. D'abord, il faut tout de suite dire qu'on ne trouve absolument pas dans le Zohar, par opposition à ce que l'on peut trouver par exemple dans les écrits de Maïmonide, cette idée que le salut, finalement, ne concerne que les hommes et les intellectuels. Pour le Zohar, tous, intellectuels ou pas, hommes et femmes, sont appelés au salut. Le Zohar propose, offre le salut également aux femmes. Puisque la philosophie, qui était certainement le strict apanage des hommes, n'est absolument pas la voie du salut pour le Zohar. Et que donc, dans la mesure où elle participe à l'économie du salut, les femmes en tant que telles ont un rôle à jouer, bien sûr, et peuvent bénéficier de ce salut. Et donc, par conséquent et logiquement, des enseignements de la Kabbale et du Zohar lui-même. Mais bien entendu, les femmes au Moyen-Âge, et pas seulement au Moyen-Âge, avaient un rôle très précisément assigné par la société. Elles n'étaient pas appelées à exercer des métiers, à étudier la Torah. Leur bagage intellectuel, scolaire, n'était certainement pas aussi développé que pouvait l'être celui des hommes. Les tâches ménagères, domestiques, la concernaient au premier chef. Et on ne voit pas dans le Zohar de femmes délivrer des enseignements, comme par exemple, on surprend parfois des enfants délivrés. L'enseignement ésotérique en particulier. Si la femme n'apparaît pas comme étant une source de savoir, au premier plan en tout cas, elle a certainement un rôle tout à fait important par rapport à ce savoir ésotérique, dans la mesure où elle, on l'a vu déjà, elle incarne, pour le kabbaliste, la dimension divine à laquelle il est en relation la plus constante, c'est-à-dire la Shekhina. Et le Zohar accorde une très très grande importance, et il le souligne de façon tout à fait explicite, à l'harmonie des relations entre l'homme et la femme, et entre l'homme et son épouse en particulier. Il insiste beaucoup là-dessus. Il parle à plusieurs reprises de l'amour qui doit régner entre eux. À aucun moment, il ne fait mention d'une relation de domination, d'obéissance. Ce qu'il met en avant, c'est la complémentarité. Le Zohar a une approche globalement, peut-être que c'est un peu anachronique de le dire, mais bon, pour aller vite, on peut dire que l'approche du Zohar est plutôt romantique. Il a tendance à installer la femme sur une sorte de piédestal, de l'idéaliser. Il n'y a que les femmes qui sont appelées des sorcières dont le Zohar se méfie. Il y a un côté sombre, certainement, dans le monde féminin. Mais ce côté sombre, ce côté obscur lié à la magie, à la sorcellerie, est certainement beaucoup moins important que le côté lumineux, que le côté positif, dans les textes du Zohar en général. Et puis, surtout, il y a ce fait que, pour les kabbalistes, Dieu a créé l'homme, masculin et féminin, mâle et femelle, et que dans l'interprétation qu'il donne, lui et d'autres kabbalistes théosophes de son époque, pour être masculin et féminin, donc pour être véritablement et complètement à l'image de Dieu, l'homme doit avoir une femme, doit être en relation avec son épouse. Il doit être marié et doit être en relation avec son épouse. Il insiste bien sûr beaucoup, mais là ce n'est pas nouveau, on retrouve ça aussi dans la littérature talmudique, sur la très grande importance pour l'homme d'être, de ne pas être célibataire. Le célibat est vivement déconsidéré et proscrit dans le Zohar, mais pas seulement dans le Zohar. Alors bien sûr, il y a deux types de femmes. La femme qui est du côté de la Shekhina, la femme de lumière, comme dit le Zohar, ou la femme qui est du côté de la Pilegesh, de la concubine, de la tentatrice dont parle le livre des prophètes. La femme de mauvais conseil, celle qui usurpe la place de la reine, celle qui prend la place de la Shekhina et qui est parfois identifiée à Lilith. Disons que globalement, le fait de reconnaître en une des figures divines et peut-être la figure divine la plus proche, le fait de reconnaître dans cette figure des traits ou un caractère féminin et nettement féminin, de la dépeindre, de se la représenter, de s'adresser à elle comme une entité féminine, a permis aux kabbalistes de développer toute une métaphysique, entre guillemets, une mystique, du mariage, et du mariage exemplaire, du mariage idéal, du mariage avec la batzoug, avec l'épouse prédestinée, l'âme sœur. Et cette épouse prédestinée, cette âme sœur, évoque un peu les femmes idéalisées de la littérature médiévale, des troubadours. Et c'est dans la quête de cette âme sœur, de cette seconde qui est une partie de soi-même, que les kabbalistes se C'est cette quête que les kabbalistes considéraient comme une des quêtes les plus essentielles, les plus profondes de l'homme. Il fallait épouser l'épouse prédestinée parce que c'était la partie de son âme que l'on retrouvait. C'était son unité que l'on reconstituait. Et donc, l'image de Dieu. C'était un enjeu fondamental que l'on retrouve évidemment au XIIIe siècle dans le Zohar et chez d'autres kabbalistes comme Rabbi Joseph Jekatilia, et que l'on retrouve aussi chez Cordovero, à Safed et plus tard encore. Chez Luzzatto, par exemple. Luzzatto qui va reprendre la question et qui va un peu l'ouvrir à d'autres considérations. Mais toute cette problématique de l'âme sœur, etc., est certainement liée quelque part à cette vieille croyance dans le double angélique de chaque individu. Chaque individu a un double angélique, une sorte de forme céleste qui lui correspond et qui réagit, qui est liée émotionnellement et à lui. Qui se situe au ciel et qui est lié à lui, si bien que parfois l'homme réagit sans savoir pourquoi, devient mélancolique ou joyeux sans avoir de raison particulière, et cette joie ou cette tristesse, en fait, lui est transmise par les mouvements de son double angélique céleste. Et ce double, en fait, devient une figure féminine. L'autre partie de son âme qu'il faut retrouver, avec laquelle qu'il faut épouser, et qu'il faut, en quelque sorte, avec laquelle il faut se réunir pour que, après cette vie, après la vie en ce monde, l'âme reconstitue son unité, retrouve son unité, et que les deux parties de l'âme ne soient pas séparées, exilées l'une de l'autre. Et je crois que dans toute la Kabbale médiévale, mais déjà, on retrouve ça chez les chassidés ashkénazes. On a cette obsession de restaurer l'unité de l'âme et de retourner au couple que l'homme formait originellement, que l'homme était, constituait originellement, en tant que masculin et féminin. Venant en ce monde, l'âme est exilée. Elle n'est pas exilée du ciel, simplement, mais elle est exilée plus profondément encore de la partie autre, de la partie du sexe opposé, de l'autre sexe, dont elle a été séparée lors de sa venue en ce monde. Et c'est cet exil de soi-même qui est pour les kabbalistes, et pour l'auteur du Zohar en particulier, l'exil le plus immédiatement perceptible et le plus douloureux que l'homme rencontre. Ce n'est pas un exil par rapport à une terre, à une terre inscrite dans la géographie du globe, mais un exil par rapport à son être propre, par rapport à soi-même, par rapport à son âme. Et c'est l'exil de l'homme ou de la femme à la recherche de son double, à la recherche de l'autre âme, de l'autre partie de lui-même, l'autre partie qui est l'autre sexe en même temps. Et c'est une chose qui, hélas, n'a jamais été soulignée dans les écrits, par exemple, de Gershom Scholem, qui a beaucoup insisté sur l'exil cosmique dont parlent les kabbalistes, l'exil de la communauté d'Israël, et qui a très très peu fait allusion dans l'ensemble de ses écrits à l'exil dont parlent le plus les kabbalistes, qui est cet exil-là, précisément.